Parfait. C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle d'audace et de créativité. Et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Adjan Chellil. Salut Adjan.
Salut Thibaut, comment ça va ce matin?
Ça va très bien, merci. Et toi?
Bah écoute, ça va, super. Un sujet passionnant, l'audace, la créativité. Ça va plaire à nos DA, je crois, ici. Hein,
ouais, alors avant
que. À mon avis.
Oui, je pense aussi. Alors avant que qu'on attaque de ce sujet, je te propose juste de rappeler à nos amis qui nous écoutent.
Qu'est-ce qui se passe le 16 juin
que le 16
jeudi 16 juin 18h au 41 rue Ferrandière à Lyon 69002.
40 rue Ferrandière.
Ouais, vous trouverez quand même, même si vous
40
avez
40 rue Ferrandière. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on enregistre l'épisode 800 du podcast Le Super Daily en direct,
yes.
Ici en public. Voilà, les portes sont ouvertes. Ouais. Venez, 16 juin 18h-22h. On enregistre ensemble un épisode exceptionnellement, du coup, en nocturne.
Il y aura Zinedine Zidane. Voilà, je vous le dis.
Il y aura Zinedine Zidane. Il y aura de la bière gratuite.
Exactement.
Autant de raisons.
De
et puis, on y sera évidemment avec grand plaisir pour échanger avec vous, faire connaissance. Et voilà, si ça vous intéresse, hein, 18h-22h, jeudi 16 juin, on vous met en note de cet épisode un lien direct pour vous inscrire. Il faut s'inscrire parce qu'on a un nombre de places limitées.
Ouais.
Voilà, c'est pas donc encore le Stade de France ici. Donc,
ça sera bloqué après.
Exactement. Allez, voilà, les amis, on disait ce matin, on va parler
d'audace,
de créativité dans un monde où finalement tout semble se ressembler.
Ouais.
Hein. Je le disais avant le lancement de cet épisode, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, cette remarque actuellement de la part de nos clients, des marques qu'on accompagne, une standardisation du web social, les plateformes qui tendent à toutes se ressembler, les contenus aussi qui se ressemblent. Quelle place reste-t-il à la créativité, à l'audace?
C'est la grande question qu'on va essayer de se poser ce matin. Quelle place il reste à la créativité, à l'audace au milieu de ce que nous imposent toutes les plateformes sociales? Je pense qu'il faut mettre déjà un petit coup dans le rétro sur pourquoi on a cette vision-là aujourd'hui et revenir au web 1. Hein. Aujourd'hui, on parle du web 3.0 là, avec le métaverse, etc. Je pense que revenir au web 1, ça nous permettrait de comprendre pourquoi on pense ça aujourd'hui. À l'époque du web 1, bah, tout était décentralisé. Chacun était de son côté. On créait du contenu pour le mettre sur ses propres plateformes. Donc, ce qui veut dire déjà qu'on était dans une création de contenu où on n'avait pas vraiment d'obligation de format. On avait sûrement un petit peu, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et du coup, bah, on hébergeait tous ces contenus-là sur notre propre site. Il n'y avait pas de plateforme commune avec d'autres marques ou avec d'autres personnes. Ou alors très peu, puisque c'était tout début en 2007, on va dire 2008. On a eu les débuts après de Facebook, il y avait les Skyblogs.
C'est vrai, avant il y a eu, t'as
MSN.
Raison. On parle d'une époque que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, l'époque du web 1, hein, comme tu dis, une époque où le web n'était pas encore entre les mains des GAFAM, hein, c'est ça dont il faut se souvenir, une époque aussi d'exploration, de créativité. Moi, j'ai kiffé, hein, cette période-là, c'est là où j'ai découvert réellement le web, une époque aussi où chaque créateur de contenu, chaque marque pouvait inventer son propre univers graphique, son expérience utilisateur. C'est l'époque, les plus vieux d'entre nous s'en souviennent peut-être, l'époque des sites web en flash, hein, des pages MySpace qui clignotent, des Skyblogs tunés. Ce web 1 dont tu parles, il est 100% sur desktop et il ressemblait à une sorte d'Eldorado, hein, où finalement il suffisait d'en être pour sortir d'ores et déjà du lot.
Ouais, déjà à l'époque, pour replacer un peu les choses, en 2007, il y a 54% des Français qui disposent d'un accès à Internet. Hein. Aujourd'hui, ça peut paraître fou, mais à l'époque, il n'y a que la moitié de la France, ouais, qui a accès à ce contenu déjà. Donc, disons que les regards chez ceux qui dépensent de l'argent, ils sont pas braqués au même endroit aussi. Il y a ça qui compte, je pense. C'est qu'à l'époque, quand on dépense un peu de sous pour son site internet et pour créer du contenu sur son site internet, c'est vraiment quelque chose tellement à la marge.
Surtout, c'est déjà de l'innovation, hein, à l'époque.
C'est ça,
hein.
On est déjà tellement en avance. On se dit, je veux dire, à mon avis, côté annonceur, à l'époque, il y a un truc de, on se gargarise d'être un peu, on fait ça.
Mais c'est exactement.
Il y a mon petit neveu qui m'a dit d'y aller.
Ce qui se jouait à l'époque, c'est exactement ce qui se joue aujourd'hui sur le métaverse avec Carrefour qui fait des entretiens d'embauche dans le métaverse. À l'époque, c'était à peu près la même chose dans la tête des annonceurs. Là, les amis, on est c'était avant 2000, hein, avant la bulle, hein, parce qu'en 2000, la bulle Internet explose, hein, et en 10 ans, là, tout va radicalement changer. Hein. MySpace cool, Facebook s'impose, moins fun, moins créatif, mais diablement efficace, hein, Facebook.
C'est l'époque voilà. De l'impo, là où c'est le moment où s'imposent les GAFA, au final.
Et puis, en 2007, apparaît le premier iPhone. Apple décide, à ce moment-là, de ne plus autoriser la lecture des sites flash dans le mobile. C'est fini la folie des interfaces web animées, ultra créatives. C'était un kiff. Moi, à l'époque, je produisais des sites en flash. C'était vraiment génial parce qu'à chaque site web, on réinventait une expérience utilisateur, on réinventait un bout de web. Ben, ça, c'est fini. Hein. Place à un web sérieux, plus standardisé. Carré. Et depuis ce moment, c'est vrai que le web est en train de radicalement changer, se transformer. Et on entre dans une ère, l'ère du contenu. Internet s'est démocratisé. Les audiences se concentrent sur les blogs, hein, à l'époque, aussi les premières plateformes sociales. Et l'attention, elle est beaucoup moins portée sur les interfaces utilisateurs. L'expérience UX est beaucoup plus sur la consommation de contenu.
Bien sûr. Alors, pour prendre un peu la défense de cette évolution-là qui a eu lieu à ce moment-là, je pense aussi que, bien sûr, que ça s'est un peu standardisé à ce moment-là, déjà. On a commencé à en parler, hein, avec l'arrivée de Facebook, avec les blogs qui t'imposaient aussi des formats. Mais je pense que les formats, ils sont aussi devenus de plus en plus ergonomiques par Bien rapport sûr. À là où ils étaient diffusés. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il y a l'iPhone qui a commencé à arriver, les smartphones qui sont petit à petit imposés dans nos sociétés occidentales. On s'est rendu compte que bah, il y avait aussi certains pays dans le monde en fait où le smartphone, il arrivait avant l'ordinateur à la maison. Donc, il y a des pays en voie de développement où les gens ont consommé Internet d'abord sur téléphone avant même de le consommer sur un ordinateur qu'ils n'avaient pas chez eux. Et en fait, on a aussi rendu tous ces formats-là, tous les contenus plus ergonomiques à l'endroit où ils étaient consommés. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne avancée dans la manière dont on a traité le contenu.
Ouais, priorité au contenu et puis aussi place aussi à un web dominé par les monopoles. Hein. On voit clairement des monopoles émerger avec là aussi tout ce qui sort du lot, tout ce qui dépasse la tête est bouffé. Hein, Instagram qui émerge comme une nouvelle forme de contenu hein, dédié à la photo, c'était très nouveau à l'époque. Boum, Facebook rachète.
Vine.
Snapchat, Vine, cool. Snapchat
s'accroche.
Snapchat innove. Facebook essaye de racheter. Finalement, Meta le copie. Et puis YouTube aussi hein, qui règne en maître sur le contenu vidéo.
Google.
Exactement, avec les créateurs, les plateformes concurrentes comme Dailymotion qui peinent à émerger. On le voit, donc du coup, effectivement, grosse standardisation et centralisation autour de monopoles, les fameux GAFA.
Pour moi, Facebook, c'est le symbole de tout ça. C'est-à-dire que l'évolution de Facebook à partir de 2008, c'est l'évolution justement de cette standardisation et de cette impression que tout se ressemble et que les contenus sont de plus en plus les mêmes. On a 3 milliards de personnes quand même dans le monde qui sont sur Facebook, hein, donc clairement, Facebook a gagné le game. Ils ont la moitié du monde qui est en audience sur ces plateformes. En plus, quand on rajoute à ça le fait qu'ils possèdent les réseaux les plus puissants du monde avec par-dessus Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, on voit que les innovations qui viennent, elles viennent d'autres plateformes, elles viennent plus de ce mastodon qui lui, bah oui, standardise, copie pour donner la meilleure expérience possible à ses audiences. Et c'est plutôt du côté de Snapchat ou de TikTok en ce moment qu'on voit les innovations arriver, des nouveautés qui vont s'imposer un peu plus sur d'autres plateformes après. Donc oui, c'est clair que la montée de Facebook a été aussi une montée de la standardisation des contenus parce que Facebook a imposé des formats par rapport à sa plateforme.
Bien sûr, et pas que ça, parce que entre 2010 et 2020, on voit apparaître le Web 2, le web social réellement, et puis un monde sur lequel aussi les algorithmes règnent en maître. Il faut quand même se souvenir que au départ, il n'y avait pas d'algorithme hein, en 2016.
Chronologique.
Avant 2016, Instagram est exclusivement chronologique. Et puis, en 2016, Instagram bascule sur
ça le... Ça fait 6 ans, au final.
Voilà, c'est assez récent, sur un format chronologique dans son feed. C'est ce qu'on appelle, à l'époque, le web sémantique. C'est l'idée de... En fait, ce qui se passe, c'est que le web commence à déborder de contenu, et donc les plateformes, et notamment le web, y compris d'ailleurs le moteur de recherche Google, commencent à essayer d'organiser cette masse d'informations disponibles en fonction du contexte, des besoins des utilisateurs, et en tenant compte de sa localisation, de ses préférences, etc. Bref, on met en place des algorithmes qui vont te distribuer un contenu spécialement pour toi. Facebook, là-dessus, va vraiment rapporter de l'algorithme sur toutes ces plateformes. Et c'est là, on va dire, que les problèmes ont commencé hein, pour les community managers côté Instagram, notamment.
Moi, je me souviens effectivement que dès ce passage avec les algorithmes, et notamment ouais, sur Instagram, tu as raison, c'est la première fois vraiment qu'on a entendu beaucoup de gens râler sur effectivement la standardisation des contenus et quel contenu fallait créer pour pouvoir remonter dans cet algorithme.
Et oui, parce que là, il s'agit plus seulement de poster. Il faut poster du contenu qui sort du lot, hein, qui engage.
Je sais pas si tu te souviens, il y avait ces fameux posts de community manager qui écrivaient bientôt, vous ne verrez plus les contenus de nanan. Donc, il faut absolument que vous likiez, que vous commentiez ce post pour qu'on continue à apparaître
aujourd'hui
dans votre feed, etc.
Encore aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, allez, on est en 2022. Hein, là, on a fait le petit tour d'horizon. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toutes les plateformes sociales sont des clones?
Oui,
un peu quand même.
Un peu. Après, comme on disait, il y a de l'innovation encore. Hein. Moi, je pense que... Parce que on peut parler effectivement d'une standardisation. On pourrait même continuer à parler encore un peu des algorithmes. Hein. J'ai d'autres choses à te raconter là-dessus. Mais je trouve qu'on fait un procès aussi. L'invention et la créativité, elle existe encore sur les réseaux sociaux ou les plateformes sociales. Quand on regarde ce qui se passe du côté de TikTok depuis 2 ans, il y a eu plein de choses qu'on n'avait jamais vues avant en termes de vidéos, qu'on n'avait jamais monté des vidéos comme ça, même dans l'histoire de la vidéo. Alors que la vidéo, c'est quand même les frères Lumière qui l'ont inventé ici à Lyon il y a quand même un petit moment. Et aujourd'hui, on invente encore des nouvelles manières de monter et de réaliser des vidéos. C'est des nouveaux formats qui émergent, qui s'imposent du coup sur toutes les plateformes et qui deviennent un peu le standard, le nouveau standard. Mais comme le standard, il y avait un standard pub à un moment donné, il y a eu un standard affiché à un moment donné, il y a eu un standard de pub audio à la radio, là, il y a un standard de format qui va encore évoluer et c'est ça qui va être intéressant à suivre. Et puis, autre chose, c'est que ces plateformes sociales, je trouve qu'elles ont permis d'autres innovations. Par exemple, avant, quand est-ce qu'on pouvait faire des lives avec 4 personnes à différents endroits dans le monde, en live en même temps, sur une plateforme sociale comme Instagram ou comme Facebook, sans avoir une machine de télévision avec une production énorme, etc. Ça, c'est des innovations folles quand même.
Bien sûr que l'innovation, elle est là, que les outils sont là. Il y a des choses dingues qui se passent. Hein, sinon, on ne serait pas aussi excité tous les matins de vous parler de social media. Mais ce qui se passe quand même, hein, ce qui peut-être, dans l'esprit de certains, gâche la fête, sont les fameux algorithmes, les algorithmes qui contribuent clairement, en tout cas c'est le reproche qu'il leur est fait aujourd'hui, à standardiser le web, mais surtout les contenus qu'on trouve dessus.
C'est sûr que, et je pense que alors, les algorithmes, comme tu parlais déjà du passage algorithme chronologique à un algorithme qui te trie par rapport à ce que t'es potentiellement tu vas aimer, mais aujourd'hui l'algorithme TikTok qui est venu encore ajouter une couche de lecture par rapport à tout ça.
Algorithme prédictif sur la base de centres d'intérêt.
Hein. Et en train de carrément, pour le coup, je trouve, standardiser le contenu que tu consommes, parce que si sur Instagram, t'es resté 2 minutes de trop sur une vidéo de chat, tu peux être sûr maintenant que dans les Reels d'Instagram, où c'est la même chose sur TikTok, tu vas te manger que des vidéos de chat et t'auras beau scroller, t'auras que ça. Donc, effectivement, je trouve que là-dessus, toi, tu te retrouves dans des bulles algorithmiques vraiment, vraiment sévères, où c'est dur de sortir de ces bulles-là pour aller vers d'autres contenus et pouvoir consommer d'autres centres d'intérêt.
Et ça, c'est le centre d'intérêt, mais aussi sur le format des contenus. Effectivement, là aussi, les algorithmes ont une influence, en tout cas les plateformes. Tu l'as dit, il y a des formats qui sont émergents et des formats de standard qui sont tournants. Alors aujourd'hui, c'est le format 9/16e. Précédemment, ça a été la story, etc. Les choses bougent. Mais la semaine dernière, par exemple, Instagram a annoncé proposer des templates pour les Reels. Et là, on voit comment tout ça va contribuer encore davantage à standardiser ce nouveau format, c'est-à-dire en offrant plus de possibilités à tout le monde de créer, eh bien forcément, standardise aussi les formats. Alors, dans ce contexte-là de standardisation évidente, la place laissée à la singularité, elle semble se réduire drastiquement.
Y a une chose déjà qu'on peut effectivement se dire, c'est qu'à partir du moment où tu es au fait de ce qui fonctionne, que tu étudies bien ces tendances, ces formats, etc., si tu copies ce qui fonctionne pour ta marque ou du côté annonceur, tu vois, si tu copies les formats, normalement, tu devrais arriver à avoir des contenus qui performent assez et qui fonctionnent sur les plateformes parce que tu as une stratégie qui est, je dirais, logique par rapport aux tendances du moment. Ça, c'est la chose. Après, moi, je trouve que j'ai fait une petite métaphore avec la mode, tu vois, par exemple. C'est-à-dire que dans la mode, tu as des créateurs dans le monde entier qui vont influencer la mode, qui vont, grâce à leur audace, leur créativité, leur inventivité, leur originalité, définir ce que le monde entier va porter demain, en fait. Et puis, il y a des centaines et des centaines et des centaines de marques à travers le monde. Mais vraiment, 80, peut-être 10% de tous les vêtements qu'on porte, ce sont que des marques qui vont reprendre ce que ces créateurs de haute couture font et vont l'adapter à des énormes productions pour pouvoir habiller la planète entière sans être particulièrement créatif non plus. Ils reprennent les tendances qui sont en place. Et bah, ces marques, ça représente l'ensemble des vêtements vendus et ça suffit pour beaucoup d'entre elles à fonctionner, disons. Mais sur les réseaux sociaux, on pourrait faire le même comparatif. C'est-à-dire que vous pouvez faire partie de ces centaines et ces centaines et ces centaines de marques et suivre les tendances un peu. Si vous n'êtes pas trop mauvais, que vous avez du flair, que vous arrivez à les suivre au bon moment, vous arriverez à vivre à peu près correctement et à monter votre petit bout de chemin. Mais si vous arrivez à faire partie des quelques créateurs, si vous arrivez à faire partie de ceux qui innovent, de ceux qui vont un peu plus loin qu'on de l'audace, là, vous serez reconnu et respecté par tout le monde. Vous allez créer un lien différent avec vos audiences. Vous allez montrer que vous êtes capable d'inventer de nouvelles choses. Et surtout, en conclusion, les algorithmes. C'est ça qui fonctionne encore avec les algorithmes, c'est qu'à la fin, les algorithmes, ils ont juste envie que leurs utilisateurs restent sur leur plateforme. Donc, si vous apportez un contenu qui est différenciant et qui cartonne, bah, vous allez être porté au nu par les algorithmes.
Je vais rebondir sur ton analogie, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment que toutes les marques sont devenues des éditeurs sur un même marché. On a tous le même marché. Hein. Toutes les marques, elles sont désormais éditeurs de contenu. Et à ce titre, carrément. Peu importe si vous êtes une équipe de une personne, 25 personnes, on est tous sur le même marché. C'est celui de la création de contenu. Et c'est vrai que du coup, dans cette baston-là, à la rigueur, peu importe ton produit, on est tous à se battre sur une même base d'audience, même logique de centre d'intérêt. Alors, il y a deux choses que moi, je trouve intéressantes sur comment réagir face à ce contexte de standardisation. Et je vais opposer deux concepts, celui de la créativité et puis celui de l'audace. Pourtant, ils ont l'air très proches, on pourrait les confondre, mais je vais essayer d'en faire un distinguo. Créativité. Déjà, il faut savoir aujourd'hui remixer pour marquer des points à court terme. Je pense que ça, c'est très intéressant. Contexte de standardisation algorithmique, oui. Du coup, il faut savoir être créatif. Et bien souvent, la créativité, elle est à chercher du côté du remix. Le remix, qu'est-ce que c'est ? C'est un pilier de la culture web. Hein. Ce sont les mashups de films, les mèmes, tout est histoire de mix. Hein. Les titres de musique qui aujourd'hui cartonnent sur TikTok sont tous le remix d'un remix d'un remix.
Utiliser la tendance, quoi.
Oui, et puis la copie. Hein, parce que la copie, elle fait partie du processus créatif. Faut pas avoir de doute là-dessus. Remixer, c'est savoir réadapter des trends.
Surtout avec le format aujourd'hui qui a été développé par TikTok, où effectivement, ça fait partie même du fonctionnement de TikTok de recopier le format de vidéo qui fonctionne.
Oui, et c'est aussi un bon moyen pour les marques de, on va dire, faire du mimétisme communautaire, hein, en gros, de rapprocher la marque de tendances liées à un centre d'intérêt communautaire. Alors oui, évidemment, dans une stratégie de contenu, il faut savoir être créatif, il faut savoir apprivoiser les algorithmes, les tendances, et il faut savoir jouer avec ça. Ça, c'est la partie créativité. Et puis, il y a aussi l'audace. Hein. Il faut que les marques, elles fassent preuve de l'audace, hein, de l'audace pour sortir durablement du lot. Parce que, on l'a dit, les algorithmes ont tendance à standardiser le contenu, mais ils peuvent faire exploser une marque ou un créateur de contenu. Carrément. Sans aucun doute. Et là-dessus, moi, j'invite les marketeurs, les marques, les CM à traiter leur marque comme un produit. À traiter leur contenu, comme un produit. On est tous, on l'a dit, éditeurs de contenu, on est tous en train à la baston sur le même marché, celui de la création de contenu. Pensons à notre contenu comme un produit. Et l'erreur, bien souvent, ça serait de penser à son contenu exclusivement sous l'angle de la réponse. En gros, qu'est-ce que mes audiences ont besoin ? Je vais leur proposer ça. Et ben, on peut sans doute aller plus loin que ça et pas uniquement se contenter de répondre, mais aussi essayer de créer. Je vais donner un exemple. Hein. Si je pense à mon produit uniquement avec une valeur fonctionnelle, eh bien, sa valeur ajoutée, elle est modeste. Hein. Je deviens une commodité. Je vais prendre une autre analogie et pas dans la mode cette fois-ci. Mais si je suis une plaquette de beurre de 250 grammes, je suis chez Lidl, point barre, je suis fonctionnel, ma valeur ajoutée, elle est exclusivement fonctionnelle. Mais si mon produit embarque plus de valeur de marque, hein, embarque de l'innovation, du branding, du storytelling, bah, je suis plus seulement une plaquette de beurre, je suis le beurre tendre par Elevir. Ça coûte plus cher et puis surtout, il y a une vraie préférence de marque additionnelle.
Ouais, on crée un lien en tout cas différent avec, avec les audiences et là, tu parles de préférence de marque, effectivement, dans le funnel de conversion à l'heure où bientôt, peut-être, on pourra acheter sur les réseaux sociaux, et bah, en dessous de la notoriété, il y a la préférence de marque. Cette préférence de marque, on la crée aussi en étant innovant.
Ouais, et puis cette préférence de marque, elle passe par le tone of voice, le TOV. Hein. Peut-être que vous l'avez déjà vu, ce truc. Et pour ça, il faut savoir prendre des risques, savoir expérimenter
carrément
pour travailler sa tonalité de marque. Hein. Si j'ai la même tonalité que les autres, si je produis le même contenu et qu'en plus, j'ai la même tonalité que les autres marques, et bah, évidemment que je deviens une commodité. Je suis la plaquette de beurre chez Lidl. Si je travaille ma tonalité, bah, pour faire ça, il va falloir travailler ma créativité, travailler aussi mon audace dans ma prise de parole.
Carrément, carrément. Écoute,
on pourrait écrire une thèse voilà, là-dessus.
Un sujet vaste dont on reparlera sûrement dans le Super Daily. Si vous avez des questions, en tout cas sur le sujet, ou si vous avez envie de prolonger le débat, vous pouvez tout de suite venir en parler sur les réseaux sociaux à Super Natif, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, TikTok ou même Pinterest, on est partout, hein, Twitter aussi, donc n'hésitez pas à venir nous voir et puis sinon vous pouvez nous suivre tous les matins hein, en direct sur Twitch dès 9h. On est aussi sur Twitter Spaces, donc vous avez plein d'endroits où vous pouvez parler avec nous de ces sujets, donc n'hésitez surtout pas. Si vous écoutez par contre ce podcast juste sur une plateforme de podcast, bah, c'est super cool, laissez-nous un commentaire, une petite note, ça nous fait un peu dans les algorithmes, ça nous fait plaisir.
Merci à vous tous, on vous embrasse.
Allez,
et on vous donne rendez-vous demain. Salut tout le monde, ciao, bye.